Le roman d'un brave homme, chapitre 12. Tristia. Nous étions arrivés chez nous, et déjà Catherine ouvrait ses bons gros bras pour m'étreindre. Je fus heureux de la revoir, heureux aussi de reconnaître un à un cent autres serviteurs, moins animés et moins bruyants, mais qui étaient comme elle mes vieux amis, et qui gardaient dans tous leurs coins quelque chose de mon enfance. Il faut avoir vécu hors de chez soi, couru les grands chemins, dormi sur l'oreiller banal des auberges, pour goûter la douceur des meubles de famille et vénérer leur sainteté. J'allais et venais à travers la maison comme une somnambule qui n'a pas conscience de ses mouvements, et les souvenirs de toutes sortes qui voltigeaient autour de moi me faisaient, pour ainsi dire, recommencer la vie. Certes, je n'avais rien oublié de cet intérieur, et pourtant j'y découvrais avec surprise mille objets bien connus et bien chers. C'était le grand fauteuil où mon père se reposait après nos courses à travers champs, son chef-d'œuvre de charpentier sous verre, la bergère au coussin de cretonne où ma mère tricotait mes bas, la table où nous avions dîné tous ensemble pour la dernière fois, la bibliothèque où mes prix occupaient le rayon d'honneur, au-dessous de la collection des manuels rorés. Un herbier, des cartons de tir, une collection de pierres ramassées le long des routes, mes premiers dessins encadrés, des faïences que j'avais peintes, les portraits de M. Simoneau et de sa fille, mon fusil, mes cannes à pêche, un gant et un bouquet, souvenir très fané d'une soirée offerte aux Badouillards par les élèves de Madame Mousse. Et tout à coup, sans transition, rien qu'en ouvrant la porte du cabinet voisin, je me retrouvai face à face avec le vieux berceau d'osier où j'ai dormi mon premier somme. Ma mère l'a toujours gardé pieusement pour l'aîné de ses petits-fils. Tout cela est soigné, correct, entretenu avec la propreté méticuleuse qui est le luxe de nos provinces. Je voudrais en vain retrouver quelques grains de poussière dans les plis du manteau paternel, de ce manteau que j'ai jeté en revenant de l'incendie. Il est si bien brossé que vous le croiriez neuf. Quelquefois, au milieu de ce voyage en chambre, je m'arrête, surpris par une douleur lancinante, comme si une épine oubliée au bout d'un doigt me rappelait tout à coup que l'homme est de chair. C'est l'horreur du présent qui se réveille en moi devant les aimables reliques du passé. Qu'est-ce qu'on m'a conté tout à l'heure de ce malheureux principal? Est-il vraiment possible que M. Doussot, mon vieux maître, ait échangé sa jolie maison, éclairée par des vitraux suisses et émaillée de faïences italiennes, contre une bière de sapin dans un cimetière d'hôpital? Maman, viens ici, je t'en prie. « Asseyons-nous comme autrefois, toi dans ta grande chaise, moi sur le tabouret, à tes pieds, et recommence l'abominable histoire que tu m'as contée en chemin. » La chère femme ne se le fait pas dire deux fois. Elle accourt, Catherine la suit de près, et les voilà qui me racontent, en duo, avec des détails inédits, les trahisons, les violences et tous les petits crimes qui ont été la monnaie du grand. À tout propos, le nom de Barbe Bonafigue revient dans le récit, comme si la gamine provençale, fille d'un emballeur légitimiste et sœur d'un de ces prétoriens que Basset excommuniait en bloc, avait personnifié chez nous le génie de la résistance. Je lui savais infiniment d'esprit, pas mal de cœur et même un certain caractère. Cependant, elle a dépassé mon attente, et de beaucoup. Mais ce qui m'étonne surtout, c'est d'apprendre qu'elle fait des passions. Non, certes, que j'y trouve aucun mal, loin de là. Je lui ai toujours souhaité un mari, et je voudrais la savoir heureuse. C'est égal. Pour qu'on l'aime d'amour, il faut qu'elle se soit métamorphosée des pieds à la tête. À ce soir, qui vivra verra. Je ne voulais plus y penser, et mon esprit revenait sans cesse à cette idée. Comme on s'acharne à trouver le mot d'une charade, ou comme on cherche obstinément à compléter un quatrain dont on n'a retenu que trois vers. Non seulement je n'étais pas amoureux de cette fillette, mais j'aimais ailleurs. Un jeune homme vraiment jeune, et je l'étais terriblement, ne saurait faire deux tours de France sans s'éprendre et se déprendre bien des fois. Les filles de notre pays sont si belles, si naturelles, si honnêtement enjouées. Il y a tant de bonhomie et d'ouverture de cœur dans cette grosse bourgeoisie marchande où j'étais accueillie, traitée, fêtée presque partout comme un enfant de la famille. Je ne dînais pour ainsi dire jamais en ville sans tomber amoureux. C'était ma manière de me griser. Mon vieux prédécesseur, M. Vinot, en avait paraît-il une autre. L'homme n'est pas parfait, que voulez-vous ? Heureusement pour mon repos, le vent qui souffle sur la grande route est prompt à dissiper les fumées de l'amour. Lorsqu'une petite demoiselle de 18 ans, assise à la droite de son père, m'avait dit « Monsieur Dumont, reprenez une tranche de ce baba, c'est moi qui l'ai fait. » Je sortais de chez mon client la tête en feu, le cœur à l'envers. « Enfin, disais-je, la destinée a mis sur mon chemin celle qui sera la mère de mes enfants. Je l'aime, elle ne paraît pas me haïr. Ses parents, qui m'ont témoigné tant d'estime et de sympathie, ne me refuseront pas sa main. Ils n'ont pas l'air dénaturés du tout. Allons, je suis fixée. J'épouserai Amélie, ou Francine, ou Zoé. Sinon, je mourrai vieux garçon. » Je me couchais par là-dessus. Je rêvais de Zoé, de Francine ou d'Amélie. J'y repensais le lendemain et quelquefois le jour suivant. Mais bientôt une autre mignonne, aussi belle, plus belle, 100 fois plus belle, car elle avait le mérite incomparable d'être là, m'offrait un pot de crème au chocolat ou un morceau de nougat qu'elle avait fait elle-même, et je partais sur une nouvelle piste en courant comme un fou. La folie ne calcule pas. Caprice, si l'on veut, mes caprices ne furent jamais ni éperonnés ni bridés par l'intérêt. Je ne m'informais pas si la dame de mes pensées serait dotée ou non, si elle était fille unique ou sœur d'une douzaine de cohéritiers. Être enrichie par une femme ne me semblait ni honorable ni moral, et je me sentais assez fort pour nourrir une famille à moi seule. Les impressions de mes premiers voyages s'étaient classées petit à petit pendant que je courais l'Europe. Le plus grand nombre, comme on peut croire, s'était évaporé sans laisser même un souvenir. Il me restait pour tout potage une vraie passion, un attachement et un goût assez vif. L'objet de ma passion était la magnifique Berthe, fille aînée de M. Castenède, fossé de l'intendance, Bordeaux. Je correspondais de temps en temps avec son père. Elle tenait la plume pour lui, et mon cœur battait fort, on peut le croire, chaque fois que je lisais en post-scriptum « L'écrivain se rappelle au bon souvenir de M. Dumont ». La gracieuse Angèle Souk de Marseille, rue Saint-Féréol, occupait la seconde place. C'était la seule blonde, d'un blond franc, que j'eusse découverte aux environs de la Canebière. Nous avions applaudi ensemble Guillaume Tell au Grand Théâtre, dans la loge de ses parents. Et, comme je soulignais d'un coup d'œil le vers classique de M. de Jouy, ma présence en ces lieux est peut-être un outrage. Elle avait appuyé d'une légère pression de main la réponse du soprano. On pardonne aisément un tort que l'on partage. J'avais passé plus de 20 fois le lendemain devant le brillant étalage de son père, et nous avions échangé des œillades qui valaient presque un engagement formel. Enfin, j'appréciais beaucoup une belle Flamande de Roubaix, Gertrude de Brucard, ronde comme une pomme, rouge comme une fraise et savoureuse à l'œil comme une nymphe de Rubens. Elle m'avait donné une gifle en jouant au petit jeu dans le salon blanc et or de madame sa mère, et ce geste, à la fois puissant et familier, avait pénétré jusqu'au ressort de l'âme. Fermement résolue à me laisser gouverner par ma femme, et persuadée que le bonheur sur terre est à ce prix, je me disais souvent, in petto, que la main de Gertrude avait pris possession de mon être, et qu'il serait inutile de chercher mieux. Toutefois, comme j'avais dû partir pour l'île dans la nuit et comme la superbe enfant ne m'avait pas donné de ses nouvelles, je ne me croyais pas irrévocablement liée. Barbe était dans la confidence de ses amours et de bien d'autres. L'amitié toute fraternelle que je lui avais vouée dès l'enfance me faisait presque une loi de lui conter mes petits secrets. Elle s'en amusait beaucoup, et quand je lui parlais d'une nouvelle idole en disant « l'épouser ou mourir », elle me répondait « va toujours, ce n'est pas encore celle-là qui raccommodera tes gilets de flanelle ». J'étais donc bien à l'aise avec cette petite bonne à figue, sûre de ne pas l'aimer, si ce n'est de la bonne sorte, capable de lui donner un sage conseil et de lui désigner entre ses prétendants le plus capable et le plus digne. Et pourtant, l'idée de la voir embellie, entourée, courtisée, sans m'inspirer aucune jalousie, dérangeait singulièrement les habitudes de mon esprit. Je m'étais arrêtée devant ces fameuses pantoufles dont j'avais fait des porte-allumettes dans ma chambre, à droite et à gauche de l'étroite cheminée. Et je me demandais par quelle combinaison la nature avait pu transformer le sol natal de ces cheveux-là. Et je me fatiguais à parcourir dans tous les sens le vaste champ des hypothèses, lorsque ma mère, venue à pas de loup, mit ses deux mains sur mes épaules, me plia jusqu'à elle et dit en m'embrassant « Tu la verras ce soir, le dîner est servi, allons nous mettre à table. » Ces mères ont de si bons yeux qu'elles voient même ce qui n'est pas. Catherine, comme on peut le croire, n'avait pas manqué de servir tous les petits plats que j'aimais. Le veau gras, trop volumineux pour un couvert de deux personnes, était remplacé par une paire de pigeonneaux en compote. Si on l'avait livrée à ses inspirations, elle était fille à mettre en broche le perroquet du pharmacien. Et le bon pharmacien de la ville haute, M. Pistorius, aimait tant à faire plaisir qu'il eût peut-être immolé son enseigne vivante au grand enfant gâté de Courcy. En dépit des efforts et des talents de l'excellente fille, nous fîmes peu d'honneur à la cuisine. Ma mère était trop heureuse de mon retour, et moi trop affligée de son récit. À 7 heures, on leva la séance et l'on se dirigea vers la fabrique. Je remarquai alors qu'en mon absence, la ville s'était éclairée au gaz, mais elle n'en paraissait pas plus brillante, et l'on voyait bien peu de monde dans les rues. Chemin faisant, ma mère m'avertit de ne pas demander des nouvelles de Jean si la famille ne m'en parlait pas. Le brave et malheureux garçon, obligé de voter à livre ouvert pour ou contre le plébiscite, avait voté non. Ses parents étaient fiers de son courage, mais désolé du résultat. Jean ne se faisait pas d'illusions. Il se savait disgracié pour la vie, sans autre chance d'avancement que l'ancienneté. Un grade tous les 10 ans et la retraite de capitaine. « Mais ce n'est pas une raison, ajoutait-il, pour ne pas faire ce qu'on doit. » Quand nous fûmes arrivés devant la porte des Bonafigues, qui logeaient au second étage dans un bâtiment neuf, je vis qu'ils étaient encore à table, car il n'y avait de lumière que dans la salle à manger. Ce petit contretemps me suggéra l'idée d'aller voir mon patron d'abord. Je lui devais ma première visite, et j'avais à lui rendre compte de presque tout mon voyage en Belgique. Ma mère monta donc sans moi pour annoncer ma visite à nos amis, et je me rendis chez M. Simoneau. Il était seul, à son ordinaire, et se promenait de long en large dans ce grand cabinet que je connaissais trop. L'homme froid m'accueillit comme si nous nous étions quittés la veille et demanda à brûle-pourpoint si les frères Wyss d'Amsterdam avaient fourni de bonnes références en me donnant une commission de 30 000 florins et plus. Il ne comprenait pas qu'une maison sérieuse préférât nos produits à ceux de Delphes, infiniment supérieurs, qu'elle avait sous la main. Je répondis sur le même ton que Delphes se copiait un peu lui-même et qu'il y avait en Hollande un public riche, éclairé, épris de l'art moderne et grand appréciateur de nos produits. Quant à la maison Wyss, elle était assise sur des millions de capital et des siècles de probité commerciale, comme presque toutes celles que j'avais vues dans cet honnête pays. Là-dessus, il passa sans transition au procédé des diverses faïenceries que j'avais sans nul doute étudiées dans le nord de l'Europe, et m'invita à lui communiquer immédiatement le résultat de mes observations. Je lui dis, sans me déférer, que, vivant en wagon depuis tantôt un mois, je n'avais pas pu apporter dans mes poches un travail d'ensemble équivalent à un volume de 500 pages, mais que j'en possédais les éléments, et que je les mettrais au net en peu de temps s'il me retenait à Courcy. « C'est bien mon intention, » reprit-il. « Monsieur Courtois est absolument invalide. Monsieur Vineau, qui le remplace, a contracté dans ses voyages certaines habitudes qui le rendent impropre au travail de la caisse. Vous êtes bon comptable, à ce qu'on dit. Vous entrerez en fonction demain matin. » « À 8 heures, n'est-ce pas ?» Sans deviner ce qu'il pouvait y avoir d'ironie dans la question, il me répondit du ton de voix le plus naturel, « Sans doute, à 8 heures. » Je pris congé de lui en demandant s'il n'avait pas d'autres ordres à me donner. Non. Après une séparation d'un an et plus, cet invraisemblable patron ne trouva rien de plus à me dire. Comme je regardais du coin de l'œil, au passage, une sibylle de verre remplie de pépites d'or, il me dit « Ne faites pas attention à cela. Ce sont des échantillons qu'un de nos associés, je veux dire un de nos correspondants, m'adresse de très loin pour des essais à faire. L'emploi de l'or battu sous couverte est un moyen de décoration que presque tous les céramistes d'art ont cherché, mais sans succès. Nous en reparlerons un autre jour. » Par une association d'idées que je ne me charge pas d'expliquer, cet or me rappela le pauvre Basset, qui construisait un quartier de ville en Californie. Je trouvais, chez les Bonafigues, une de ces réunions qu'on peut qualifier de choisies, parce qu'elles ne sont ni nombreuses ni brillantes, 10 ou 12 personnes, y compris les maîtres du logis. La fête, morne et silencieuse, était éclairée par 2 lampes. Un petit vieux, coiffé d'une huppe de cheveux gris, accourut au-devant de moi en sautillant et me serra la main sans chaleur. « Té, dit-il, Pierre Dumont, comment se porte ta République ?»« Aussi bien que votre royauté, cher monsieur Bonafigue. » Je saluai ensuite la maîtresse de la maison, qui ne me fit guère plus d'accueil. Et je m'arrête indécis devant une inconnue que je voyais assise à côté de ma mère. Elle éclata de rire et se leva en disant « C'est donc ainsi que tu m'embrasses ?» Les 3/4 et demi des assistants témoignèrent, par des grimaces variées, qu'une plaisanterie si familière n'avait pas leur approbation. Ma mère seule épanouit sincèrement son cher et doux visage. Je compris que je ne nageais pas en pleine sympathie, et au lieu de tendre les bras à mon ami d'enfance, je lui baisai la main. Elle rit de plus belle et me demanda si j'avais fréquenté les cours étrangères. Il eût été fort ridicule de lui dire « vous » quand elle me tutoyait, et d'un autre côté, je sentais que le « tu » m'écorchait la bouche, tant l'héritière des Bonafigues ressemblait peu au bon gamin en jupon que j'avais laissé à Courcy. Je pris donc un moyen terme, et sans employer ni le « tu » ni le « vous », je lui dis « il ne faut pas m'en vouloir si je n'ai pas reconnu au premier coup d'œil une transfigurée. On a grandi en 18 mois. J'ai mangé de la soupe. Ce joli petit nez était plus court l'année dernière. J'aurais mis une rallonge. Cette bouche semblait moins petite. J'ai fait un point de chaque côté. Et je crois bien que nous n'avions pas ce teint de crème. C'est l'âge qui m'aura passé un badigeon. Sans compliment, si tu me trouves changé en mieux, j'en suis fort aise. » On ne juge pas quand on admire. Dis donc, sais-tu que les voyages ne t'ont pas rendu amusant? Ces messieurs que je vais avoir l'honneur de te présenter sont bien plus aimables que toi. Ils sont moins dépaysés, c'est un avantage. Peut-être bien. Voici monsieur Thomassin, ancien élève de l'école centrale et chimiste de la fabrique. J'échangeais un salut assez froid avec Monsieur Thomassin. C'était un grand jeune homme brun, légèrement voûté. Il portait des lunettes de myope. Barbe continua sa nomenclature. « Mon valseur préféré, Monsieur Bonnard, neveu de l'ancien maire de Villevieille et employé dans nos bureaux. » Ce gros garçon, qui appartenait à une riche famille de marchands de grains, reprit d'un ton légèrement avantageux. « Sous-chef, mademoiselle, j'ai l'honneur de venir immédiatement après Monsieur Vineau dans l'ordre hiérarchique. » « Eh bien, monsieur, répliquai-je aussitôt, je tâcherai que vous ne perdiez pas trop au change, car demain je succède à Monsieur Vineau. » Il se mordit les lèvres et s'empressa de prendre un air modeste et gracieux avec moi. « Ceux-ci, dit Barbe, sont deux artistes parisiens du plus grand mérite, Monsieur Lambert, qu'on appelle Lambert des fleurs, pour le distinguer de 20 autres Lambert qui sont peintres et qui ont du talent. Et Monsieur Bergeron, graveur, qui fut l'élève et l'ami de notre pauvre Monsieur Dussault. » À celui-là, je tendis les deux mains. Mais je sentis qu'il me faudrait quelque temps pour m'accoutumer à tant de nouveaux visages et aux singuliers privilèges dont ces messieurs jouissaient dans la maison. Le peintre et le graveur étaient fort bien de leur personne, mais un peu débraillé, et surtout plus familier qu'il ne convient à de simples connaissances. Quant à Mademoiselle Bonafigue, que ses parents admiraient bouche béante, elle me plaisait beaucoup moins qu'au bon temps où elle était franchement laide. Elle avait le verbe trop haut, et avec ses airs délurés, elle me fit un peu l'effet d'une coquette de village. Plus elle piaffait bruyamment, plus je me renfonçais en moi-même. Je dus paraître fort maussade au beau-fils, qui ne me connaissait que de réputation. Heureusement, j'avais dans la fatigue du travail un prétexte à souhait pour leur tirer à tous ma révérence. Et j'en usais. Ma mère ne souriait plus. Ma mauvaise humeur comprimée éclata dès le seuil de la porte. Comment ? Nous n'avions plus d'autres intimes que ces gens-là ? Et lorsque j'accourais à eux après une si longue absence, je trouvais leur intérieur envahi par toute une collection d'intrus. Quel besoin d'exhiber les esclaves que cette beauté triomphante avait attelés à son char. Le seul homme que j'aurais eu plaisir à voir dans leur salon était mon cousin Charles, dégrossi, cultivé, poli par tous les frottements de la ville, bon employé d'ailleurs, et placé directement sous les ordres du père Bonafigue. Ils ne l'ont même pas invité. Est-ce donc qu'il aurait fait tâche au milieu d'une réunion si brillante ? Ma pauvre mère, un peu déconcertée, car elle avait espéré mieux, ne me trouvait ni juste ni raisonnable. Elle disait qu'après une très longue absence, on doit s'attendre à trouver quelques changements, sinon dans les cœurs, au moins dans les habitudes de ceux qu'on a laissés. L'absence de mon cousin Charles s'expliquait suffisamment par un reste de timidité villageoise et par le besoin de s'instruire. Il suivait le cours des adultes, à l'usine même, et travaillait souvent après 10 heures du soir. Quant aux jolis messieurs qui semblaient me porter ombrage, pouvait-on reprocher aux Bonafigues de les recevoir en amis ? Monsieur Bonnard était l'héritier présomptif d'une belle fortune. Monsieur Lambert et Monsieur Bergeron travaillaient bien, on les payait à la pièce, chacun d'eux gagnait 2 fois plus que le plus gros employé de la maison. Monsieur Thomassin, le chimiste, appartenait à une famille aisée, on lui reconnaissait du talent et personne ne doutait de son avenir. Pourquoi repousserait-on de parti pris les prétendants honorables lorsqu'on a une fille à établir ? Car enfin, Barbe était à marier. Tout le monde le savait, excepté moi, qui m'obstinais à la traiter en fillette sans conséquence. Ses parents n'avaient pas de dot à lui donner, ou si peu que rien. Mais elle était jolie, elle était instruite et lettrée, elle maniait le crayon aussi adroitement que la plupart de nos dessinateurs de fabrique, elle excellait aux soins du ménage. On devait donc s'attendre à la voir épousée, et bientôt, par un brave garçon de son choix. « Eh, qu'elle se marie si bon lui semble. Elle aura 1000 fois raison. et loin de la blâmer, je suis homme à lui donner l'exemple. Je ne m'occupe pas de ses affaires. Aussi ai-je le droit de trouver surprenant qu'elle m'y mêle malgré moi, en me faisant passer la revue de ses amoureux. Mon cher enfant, quelle que soit la femme que tu choisiras, je l'aimerai comme ma fille. Tu en es sûr. Cela dit, laisse-moi te conter un rêve que j'ai fait bien des fois sans dormir. J'ai rêvé que cette petite t'aimait depuis l'enfance, qu'elle n'avait vécu, grandi, embelli que pour toi, que son amour t'avait suivi partout, dans tes voyages, comme un lutin familier, veillant sur toi quand tu dormais, écartant les dangers, chassant les tentations, bourdonnant autour de ton chevet toutes sortes de bonnes paroles et de sages pensées. J'ai rêvé que, soumise à ses parents comme une digne enfant doit l'être, elle souffrait les assiduités des jeunes gens que les bonnes affiches lui ont présentés, mais qu'elle attendait impatiemment l'arrivée de celui qu'elle préfère à tous. Enfin, j'ai rêvé que toi aussi, mon fils, tu l'aimais, sans t'en rendre compte, sans te l'avouer à toi-même, que tu n'avais pu te soustraire au charme pénétrant de cet être, à la fois vif et tendre, subtil et bon. Tu crois n'avoir pour elle que de l'amitié, tu te trompes, et la preuve, c'est que tu es jaloux. Pour la première fois aujourd'hui, tu as vu clair dans ton cœur. Moi, maman, je te jure que jamais, jamais, jamais je n'aimerai Mademoiselle Bonafigue. Jusqu'à présent, elle ne m'avait pas plu. Ce soir, elle m'a fort déplu. Telle est en quatre mots l'histoire de nos amours. Ce soir, elle a été bien maladroite, j'en conviens. Mais cela même fait son éloge. Tu es sorti furieux. Ces messieurs ne sont pas, j'en suis sûr, plus satisfaits que toi. Une coquette aurait trouvé le moyen de contenter tout le monde. On peut être coquette et maladroite en même temps. Bientôt, chère maman, je te présenterai une bru qui ne sera ni l'une ni l'autre. J'apprendrai bien vite à l'aimer, d'où qu'elle vienne. Mais pour cette petite barbe, c'était tout fait. Le lendemain matin, au coup de cloche, le patron m'installa lui-même à la tête de ses bureaux. Il y en avait deux, outre mon cabinet, qui renfermait la caisse, et le personnel placé sous mes ordres se composait de 18 employés. Monsieur Vineau ne me remit pas encore le service. On avait ménagé l'amour-propre de ce vieux serviteur en disant que je travaillerais avec lui jusqu'à ce que je fusse au courant. Il passerait ensuite au magasin pour présider à la vente. Comme il avait fait sa philosophie à l'école des chansonniers français, le petit homme Rubicon s'accommoda fort bien d'une disgrâce honorable, tranquille et passablement dorée. Presque tous mes subordonnés étaient des enfants de la ville. Ils m'avaient eu pour camarade au collège ou pour professeur à la mairie. Ils se soumirent de bonne grâce à mon autorité modeste et amicale. L'héritier des Bonnard, gros garçon de 30 ans sonné, donna l'exemple de la discipline. Personne ne songea donc à me reprocher mon jeune âge. D'ailleurs, je n'étais pas « sur leur dos », comme on dit dans le style familier de la bureaucratie. Notre maître à tous, le patron, se déchargeait sur moi d'une bonne moitié de sa tâche. Soit qu'il commençât à plier sous le fardeau, soit qu'il fût attiré à Villevieille par la tendresse de sa fille et le vacarme de ses petits-enfants, soit qu'il persévérât dans l'idée de former un associé et de se préparer un successeur, il me mettait à toute sauce. Il ne me laissait pas m'engourdir dans la félicité tiède et légèrement étuvée des bureaux. Quand M. Simoneau n'était pas à Courcy, et il avait pris l'habitude de s'absenter souvent, c'est moi qui faisais l'intérim. Je recevais les visites du dehors et les réclamations du dedans. Je répondais, je décidais, je tranchais les nœuds gordiens d'un coup de grattoir sous ma responsabilité personnelle. Et lors même qu'il était là, mesurant son cabinet au compas de ses longues jambes, il entendait et prétendait que son principal employé, M. Dumont, fût présent partout, qu'on le trouvât en même temps à la cave et au grenier, au pétrissoir, au gâchoir, au tournage, au tournassage, au séchoir, au dessin, à la gravure, à l'impression, à la peinture, à l'engobage, à l'émail, au four, au magasin, à l'emballage. C'est l'emballage que je ne hantais pas volontiers. Je n'avais revu qu'une fois la famille Bonafigue, et j'en étais rassasié pour longtemps. Je fus très heureux, au contraire, de reprendre en main notre école, lorsque M. Simoneau m'en confia la direction. Les cours municipaux du soir avaient changé de caractère. Ce n'était plus qu'un enseignement privé, distribué dans la fabrique aux enfants et aux adultes de la fabrique par des régents du collège ou des maîtres de l'école primaire. Tous les bons bourgeois de Courcy, que M. Lutzelmann avait fait professeur malgré eux, mais qui avaient bientôt pris goût à ce métier, le plus noble et le plus charmant qui soit au monde, étaient condamnés au silence. Le régime nouveau se défiait de la parole humaine, comme de l'écriture et de l'imprimerie. Il ne croyait pas que l'on pût ouvrir la bouche sans médire de lui, et il prenait ses mesures en conséquence. Notre nouveau sous-préfet me fit l'honneur de commander une petite enquête de police sur notre école en général et mes leçons en particulier. Plusieurs de nos élèves furent mandés secrètement au cabinet de Martin Sec. On les interrogea, on feuilleta leur cahier de rédaction et l'on n'y trouva point à mordre. Les deux maîtres adjoints du père Archou enseignaient la lecture, l'écriture et le calcul. Les régents du collège donnaient à nos adultes quelques notions élémentaires de géométrie, de physique, de chimie et d'histoire naturelle. M. Lambert, le peintre, faisait un bon cours de dessin, figures et ornements. Quant à moi, j'apprenais aux petits-enfants l'histoire de France, et à nos hommes, ses grands-enfants, j'exposais de mon mieux les lois de l'économie sociale, les relations du capital et du travail, les origines et les fondements de la propriété, la valeur et l'utilité de la monnaie, le mécanisme de l'impôt, le système dit protecteur et la théorie du libre-échange. Mes grands élèves étaient nourris du catéchisme de Jean-Baptiste Say et armés de pied en cap par le bon sens de Bastia contre les paradoxes économiques. Mes gamins et gamines n'étaient peut-être pas des perroquets accomplis, capables de défiler de bout en bout le chapelet des rois de France avec leurs dates. Mais ils savaient que notre patrie ne s'est pas faite toute seule, qu'elle a été créée lentement, péniblement, par le génie de quelques-uns, le travail et le courage de tous, que les frontières sont des lignes tracées sur la carte par le sang de milliers de soldats. Cette marmaille en blouse de toile et en robe de cotonnade était pleine de respect et de reconnaissance pour les aïeux qui ont créé la France. J'avais soin de lui rappeler à toute occasion que nous devons transmettre à nos enfants le commun patrimoine tel que nos pères nous l'ont laissé, et même un peu mieux cultivé, un peu plus riche, plus florissant et plus glorieux, en vertu de la loi du progrès. Mon cousin Charles, qui avait reçu une instruction très sommaire à la petite école de Launay, suivait assidûment mes deux cours. Nous nous retrouvions à la sortie, et parfois il me reconduisait jusque chez nous, en devisant des affaires de la fabrique ou des nouvelles du village. Un soir de février 1853, par une belle petite gelée, il s'arrêta devant moi au pied du raidillon de la ville haute, et me dit d'un ton grave « On ne te voit plus jamais chez mon patron. » « Quelqu'un s'en est-il plaint ?»« Non, c'est moi qui en fais la remarque. »« Eh bien, je n'ai pas de secret pour toi, ni pour personne. Je te dirai donc franchement que le petit manège de barbe au milieu de ses prétendants, quoique assez drôle en soi, n'est pas un spectacle à mon gré. La famille est fort estimable. » Jean, l'officier, sera toujours un de mes bons amis. Le papa, quoique un peu bavard, la maman, quoique un peu criarde, ne saurait m'être indifférent. Ils m'ont coûté trop cher pour que je m'en défasse à aucun prix. Mais j'attendrai, pour reprendre mes habitudes dans la maison, que leur fille ait fini de jouer aux quatre coins avec messieurs Thomassin, Lambert et consorts. Alors, je crois que tu n'attendras pas longtemps. Il y a donc du nouveau ? Un peu, ni plus ni moins qu'une demande officielle. De tous les quatre ? Non, mais du plus riche des quatre. L'oncle de Monsieur Bonnard est venu ce matin de Villevieille avec des gants. Il a déjeuné. Tu l'as vu ? Non, je déjeune et je dîne toujours à l'économat. C'est plus commode et l'on est quitte. Alors, comment sais-tu ? Je sais exactement ce qui s'est dit et fait. L'ancien maire a été très bien. Il ne veut pas un sou de dot. Il assure à son neveu 300 000 francs par contrat, payables à sa mort, et il s'engage à servir la rente. Si toutefois on pouvait décider M. Simoneau à accepter le jeune homme pour associé, la somme serait versée dans ta caisse. Autrement, on verrait à prendre une part dans une autre faïencerie, puisque l'apprentissage de M. Bonnard est à peu près fini. Mais c'est très bien cela. J'y souscris dès demain, sous réserve de l'apprentissage qui est à peine commencé. Les bonafigues ont topé, cela va de soi. Les parents, oui. Ma patronne est même tombée les quatre fers en l'air sous le coup d'une émotion un peu trop forte. Le petit père sautait dans le salon comme un cabri. Il voulait courir au bureau et amener le jeune homme. Pas beaucoup de tenue, cet emballeur en chef. Oui, c'est un emballeur qui s'emballe lui-même, comme dit notre Parisien, M. Lambert. Mais tu ne me parles pas de l'heureuse fiancée. Ah, voilà, c'est que Mademoiselle Barbe n'était pas si heureuse que ça. Elle n'était pas même décidée. Elle ne l'est pas encore. Elle a dit qu'il lui fallait du temps pour réfléchir, qu'elle estimait beaucoup M. Bonnard neveu, que la démarche du gros oncle, il pèse au moins 250, la flattait au-delà de toute expression, qu'elle ne méritait pas une si haute alliance ni une si grosse fortune, qu'une pauvre petite fille bien simple comme elle avait tout au plus le droit de prétendre à la main d'un modeste employé. Après quoi, elle a fait un effort héroïque et répondu franchement oui. Mais je t'assure que non, rien n'est fait. Et la preuve, c'est qu'on a renvoyé la suite de la conversation au mois de juin. L'oncle est même parti sans avoir vu son neveu, car il importe, disait-il, de laisser les choses en l'état. Ah, ça, dis donc, comment te trouves-tu si bien renseigné, toi qui n'assistais pas à l'affaire? Je suis sûr qu'un Dumont n'écoute pas aux portes. Tu es également incapable de faire jaser les servantes et d'acheter les secrets d'autrui. Alors quoi? C'est la chose la plus invraisemblable, et cependant tu me croiras. La demoiselle du patron, qui ne m'a pas parlé 10 fois en tout depuis 4 ans que je travaille ici, m'a fait chercher à l'atelier. Elle m'a reçue au salon, toute seule. Son père était en bas, et sa mère je ne sais où, à se poser des compresses d'eau sédative sur la tête. « Monsieur Charles, m'a-t-elle dit, vous appartenez à une famille que j'estime, que j'aime, à qui je dois la vie. Comme il peut arriver dans 6 mois, dans 1 an, ou plus tard, un événement qui étonnera bien du monde dans la ville de Courcy, et que certaines gens seront tentés de mal juger, il faut que vous sachiez les choses dès leur commencement, et je vous prie de m'écouter avec attention, pour témoigner un jour, s'il le faut, de ma droiture et de ma sincérité. » Cela m'embarrassait un peu, moi, tu comprends, je n'ai pas l'habitude de recevoir les confidences des jeunes filles, mais elle était si décidée et elle paraissait si émue qu'il m'a fallu courber la tête et essuyer l'orage, la pluie et tout, car elle en a pleuré de ses larmes. Et pourquoi, je te le demande, l'événement n'est pas si malheureux. Mon cher garçon, les coquettes pleurent à volonté, et c'est une franche coquette qui s'est jouée de toi. Elle n'a pas choisi son confident les yeux fermés. Tout ce qu'elle t'a dit était à l'adresse d'un tien parent, qu'elle enrage de voir trop raisonnable et qu'elle voudrait affoler. Oh, mais tout beau, la belle! Ce n'est pas nous qu'on fait tourner en bourrique. Moi, je la croyais de franc jeu, tellement que j'ai presque pleuré avec elle. Es-tu bien sûr qu'elle soit si maligne que ça? La malice cousue de fil blanc n'en est pas moins de la malice. Écoute-moi, cousin. Cette fille a été laide. Elle a souffert. La voilà qui devient jolie. Elle en abuse. C'est l'histoire de tous les parvenus. Après avoir déplu à tout le genre humain, sauf quelques originaux comme moi qui l'a trouvée gentille, elle veut plaire, éblouir, fasciner, faire émeute sur son passage, forcer les aveugles eux-mêmes à se retourner dans la rue. Depuis Alexandre et Pyrrhus, on compte une demi-douzaine de conquérants qui ont visé l'empire du monde. C'est par millions qu'il faudrait chiffrer les petites femmes, hautes comme une botte, qui ont rêvé la domination universelle par l'accaparement des cœurs. Ambition bizarre, absurde, inconsciente, pure de tout calcul intéressé, mais non pas inoffensive, car elle fait souffrir cruellement ceux qui ne badinent pas avec l'amour. Barbe, pour le moment, n'a qu'une idée, c'est d'enflammer celui de ses amis qui ne veut pas lui faire la cour. Les quatre malheureux qui se sont déclarés ne l'intéressent plus, elle les met dans le même sac, comme un chasseur jette au fond de son carnier la pièce qu'il vient d'abattre, et, sans plus y songer, suit une nouvelle piste. Tu peux lui dire de ma part, ou plutôt non, elle croirait m'avoir piqué au vif. Ne jouons pas la comédie du dépit amoureux. La seule réponse à lui faire, c'est de me marier avant elle. J'ai déjà trop tardé. Mais en doublant le pas... Bonsoir, Charles, il fera jour demain. Mon parti était pris. Je rentrais en chantant, j'embrassais maman dans son lit, je me laissais border par Catherine, et la bougie éteinte, j'évoquais l'ombre un peu confuse, mais toujours radieuse, de Berthe Castenède, la plus belle enfant de Bordeaux. Par mes calculs, elle devait toucher à sa majorité. Peut-être était-elle devenue un peu forte, car à notre dernière rencontre, il y a 2 ans, elle manifestait quelques tendances à l'embonpoint. Mais j'étais sûre de l'aimer ainsi. Pendant 1 heure, à force de tisonner dans mes souvenirs en soufflant sur la braise, je rallumais au fond de mon cœur un petit feu clairé et pétillant. La régularité de mes occupations et le calme de la vie provinciale accélèrent ce phénomène intérieur que Stendhal a décrit sous le nom de « cristallisation ». Chaque jour embellissait à mes yeux le portrait idéal de Mademoiselle Castenède. Chaque heure me la rendait plus chère, chaque minute me confirmait dans cette douce illusion que nous étions faits l'un pour l'autre. Mais une rêverie, discrète et renfermée dans les profondeurs de mon âme, n'avançait pas sensiblement les affaires. Il eût fallu tout au moins que la superbe Bordelaise en fît autant de son côté et se mit à cristalliser pour moi comme je cristallisais pour elle. Or, la plus simple bienséance m'interdisait de lui écrire directement. Ma timidité m'empêchait de demander sa main de but en blanc à M. Castenède. La seule voie permise et commode, celle du post-scriptum sentimental, était déplorablement longue. Je suivis celle-là, faute de mieux, et la première fois que je pus envoyer une facture à notre client de Bordeaux, je lançai mon trait enflammé. Post-scriptum, l'écrivain prend la liberté de déposer ses plus tendres et ses plus respectueux hommages aux pieds de la belle Mademoiselle Castenède. Et j'attendis. Un long mois s'écoula entre l'attaque et la riposte. Les espérances les plus folles et les craintes les plus chimériques bouleversèrent tour à tour ma pauvre tête, durant 30 jours et autant de nuits. Je savais mon post-scriptum par cœur, et à force de le ressasser dans mon esprit, j'y trouvais tout un monde d'amour, de soumission, d'audace, une déclaration, une demande en mariage, une offense à la vertu de Berthe, une violation des lois de l'hospitalité. Car j'avais dîné chez son père, et j'y avais mangé des cèpes comme on n'en mange qu'à Bordeaux. Mes songes étaient de vrais chapitres de romans. Tantôt je voyais débarquer la famille Castenède en toilette de gala, Berthe vêtue de blanc, coiffée du voile des mariées et la fleur d'oranger au corsage. Le papa, ce digne homme, poussait sa fille dans mes bras et me disait avec un fort accent gascon « Puisque tu l'aimes tant, je te la donne ». Tantôt c'était le frère, elle n'en avait pas, qui venait me demander raison. Nous allions sur le pré, je faisais sauter son épée à 20 pas, et noblement je lui donnais la vie. Quelquefois c'était elle qui m'écrivait une lettre de 10 pages, sévère au début, douce et presque amoureuse à la fin. Même en plein jour, si M. Simoneau me faisait appeler pour affaire de service, je rêvais que M. Castenel lui avait dénoncé ma conduite et que j'allais avoir à répondre des délits les plus graves. Abus de signature, introduction du sentiment dans les affaires, manquement aux devoirs professionnels. Enfin, le 12 avril 1853, en dépouillant notre courrier, je vis resplendir l'écriture adorée sur une lettre au timbre de Bordeaux. On accusait réception des marchandises, on promettait de faire honneur à la traite de Simoneau père et fils, et l'on commandait à nouveau 6 garnitures de toilettes. Post-scriptum, en remerciant M. Dumont de son aimable souvenir, l'écrivain a le plaisir de lui annoncer son prochain mariage avec M. Isidore Charpin, propriétaire du château Charpin, un des crus les plus honorablement classés dans le Médoc. Je m'étais déclaré trop tard. Charpin, l'horrible vigneron, avait lâchement abusé de ma discrétion pour me supplanter dans le cœur de Berthe. À force de relire cette annonce, si froide en apparence, j'y découvris successivement l'expression d'une profonde douleur, un vif dépit, une ironie amère et cent autres sentiments que l'innocente fille, aujourd'hui bonne mère de famille, n'y avait certes pas mis. Et finalement, je compris qu'elle n'avait jamais pensé à moi, que j'étais un grand sot de l'aimer, que je ne l'aimais pas, que mon imagination seule était entrée en danse, que cette grosse fille n'avait ni la beauté ni les mérites de toutes sortes dont je m'étais plu à l'orner, et qu'il fallait profiter de la leçon. J'en profitais si bien que 3 semaines plus tard, j'étais follement épris d'Angèle Souque, la blonde marseillaise qui m'avait serré la main en musique à Guillaume Tell. Sûre de son affection et convaincue qu'elle ne pouvait pas m'avoir oublié, je résolus d'aller droit au but, c'est-à-dire au papa Souque. Je lui écrivis longuement, avec tout l'abandon qu'autorisaient nos relations passagères, mais cordiales, et sans nommer sa fille, j'exprimai le désir d'être mariée à Marseille et par lui. Éloge de Marseille et de sa population féminine, qui unit tous les charmes à toutes les vertus. Compliment personnel à l'adresse de M. et Mme Souque, avec une allusion très délicate à leur fille. Exposé de la situation du requérant, il n'est pas riche, il possède en tout 40 000 francs, et sa mère, très bien portante et jeune encore, heureusement, n'en a pas davantage. Ses appointements viennent d'être portés à 6 000 francs, et sa part dans les bénéfices de 1852 en a produit 3 000. Total modeste pour le présent, mais l'avenir. Variation brillante, véritable morceau de bravoure sur ce thème favori des jeunes gens. L'avenir est à moi. Et pour conclure, on suppliait l'excellent M. Souque de trouver une jeune fille assez confiante, c'est-à-dire assez intelligente, pour escompter l'avenir du très respectueux et très affectueux Pierre Dumont. Le vieux renard était bon entendeur et beau parleur par-dessus le marché. Il me comprit à demi-mot et s'expliqua de même dans un écrit des plus aimables et des plus étudiés. Après m'avoir remercié d'un témoignage de confiance qui l'honorait infiniment, il me combla d'éloges et enchérit sur mes prétentions les plus audacieuses, me promettant gloire et fortune et inscrivant mon nom par avance au livre d'or de l'industrie. C'est pourquoi il me dissuadait en ami, presque en père, de choisir une femme à Marseille. « Nous autres, disait-il, nous vivons plus vite que nature, nous sommes un peuple de gens pressés. Un père marseillais, quand il marie sa fille, prétend la voir heureuse, non pas dans 10 ans ni dans 5, mais tout de suite. Il n'a pas la patience d'attendre le fruit du travail et du temps. Il souffrirait trop s'il voyait la pauvre se priver et tirer la langue, ne fût-ce que pendant 6 mois. Tous mes compatriotes, lorsqu'ils sont assez riches pour choisir, veulent des gens arrivés, du bien-né et acquis, une fortune faite, rien de précaire et rien d'aléatoire. Je blâme leur travers, et cependant je le partage. Que voulez-vous ? On est de Marseille où l'on n'en est pas. C'est dans notre cité, notre vieille cité phocéenne, qu'un négociant refusa sa fille au lieutenant Napoléon Bonaparte. L'autre avait foi dans son étoile, il disait « Vous ne savez pas ce que vous perdez ». Le sage père de famille répondit à cet officier de fortune « Ce n'est pas avec des étoiles qu'on fait la bouillabaisse, c'est avec 13 espèces de poissons, dont je te fournirai la liste si tu veux ». Tel est l'esprit de Marseille, mon bien bon. Vous feriez donc admirablement de vous choisir une compagne dans ce charmant pays de Touraine qui est le vôtre. Les filles y sont aussi jolies et plus fraîches que chez nous, et les parents moins positifs. » La lettre se terminait par un éloge enthousiaste de notre province et de ses habitants. Monsieur Souk avait mis une certaine coquetterie à me rendre la monnaie de ma pièce. Cette dissertation éteignit le grand feu que j'avais allumé dans mon cœur pour la blonde de la rue Saint-Féréol, et je me retournai tout d'une pièce vers la plantureuse Gertrude de Roubaix, mademoiselle de Brucard, surnommée l'ange à la gifle. Je me remis à l'aimer, comme si je n'avais pensé à aucune autre, et cela ne me coûta pas grand effort, puisque j'avais à peine 25 ans. Mais, éclairé par une double expérience, je n'écrivis ni à la forte enfant ni à sa mère. Il me parut plus sage de faire tâter le terrain par un jeune homme de leur ville, mon camarade Germain de Soncé, que j'avais connu sur les routes. Cette fois, la réponse ne se fit pas attendre un mois. L'ancien voyageur, élevé au rang d'associé dans la teinturerie paternelle, m'annonça en style folâtre que personne ne pourrait me disputer le cœur de Gertrude. L'enfant ne relevait que d'elle-même. Maman de Brucard avait abdiqué tous ses droits. Seulement, mon infante avait quitté la ville sans dire où elle allait. Et par timidité apparemment, n'osant voyager seule, elle avait enlevé un capitaine de chasseurs à pied. Et de trois. Tous mes projets étaient à volo. Je n'avais plus ni préférence ni espérance. Et pourtant, à mes yeux comme aux yeux de ma mère, de mon patron, de nos amis, ma vie de garçon était finie. Je ne m'appartenais plus. Je roulais sur la pente. Lorsqu'un homme a pris son élan pour faire le grand saut du mariage, il n'y a pas d'obstacle qui l'arrête. Il franchira le fossé. Tout le monde le sent et le dit. Cela devient un bruit public. Les jeunes filles sans dot vous lorgnent en dessous. Les mamans font votre éloge tout haut. Les marieuses vous invitent à leur soirée d'échaudée et de thé suisse. Les notaires ont toujours quelque chose à vous dire en particulier. Les jeunes filles bien élevées ne manquaient pas dans la bourgeoisie de Courcy. Il y en avait même trop, car l'égoïsme des jeunes gens, l'ambition des familles, la chasse aux grosses dotes, condamnaient souvent les plus belles et les meilleures à coiffer Sainte-Catherine. Moi qui n'avais nul souci de l'argent et qui depuis longtemps me croyait assez riche pour deux, je pouvais choisir dans l'élite. Après quelques hésitations, je choisis, sans enthousiasme, mais sans regret ni arrière-pensée, Caroline Baron, fille aînée et bientôt majeure d'un fort honnête marchand de bois. Elle était blonde, j'avais résolu de n'aimer qu'une blonde. Elle était grande, elle avait la taille longue, les mains effilées, les yeux d'un bleu de ciel. Enfin, je trouvais en elle, sauf quelques détails, le type que j'avais rêvé. Nous nous connaissions de vieille date. Nous avions joué, jardiné, dansé ensemble. Mon père avait été l'ami du sien. Sa mère et la mienne échangeaient, bon an, mal an, une demi-douzaine de visites. Elle et moi, nous n'avions encore échangé que des propos vaguement sympathiques, malgré le zèle des intermédiaires et les provocations parfois gênantes des bonnes dames de son quartier. Mais, le 1er octobre 1853, le destin se mit de la partie. je venais de donner ma leçon d'histoire de France à 40 gamins des deux sexes. Une fillette de la fabrique, que j'avais dû relever 4 ou 5 fois du péché de paresse, tomba sur elle-même comme un chiffon à la porte de la salle. Je la ramassai vivement. Elle avait mal au cou, disait-elle, et elle se sentait toute chose. Il me fallut donc la porter jusque chez elle, et ses parents étaient les voisins mitoyens du chantier Baron. La pauvrette entourait mon col de ses bras maigrelets, et tout en se serrant contre moi comme un oiseau frileux, elle me disait d'une voix un peu rauque « Monsieur Pierre, vos enfants seront bien heureux, vous êtes si bon. » Je vais te dire, c'est que moi, je n'ai pas le droit d'être méchant. Tout le monde à Courcy m'a soigné quand j'étais petit. Tu ne sais donc pas qu'on m'appelle l'enfant de la ville ? Oui, mais on pourrait aussi bien vous appeler son père. À la fabrique, nous avons peur de Monsieur Simoneau. Mais vous, Monsieur Pierre, un chacun vous aime tout plein. Cela ne prouve qu'une chose, c'est que vous êtes de braves gens. Dites donc, Monsieur Pierre, vous ne nous abandonnerez pas quand vous aurez des enfants à vous ?
Pas de danger, mamie. D'abord, sais-tu si j'en aurai des enfants ?
Oui, puisque vous allez vous marier.
Qui te l'a dit ?
Tout le monde ? Et avec qui me marie-t-on ? Je ne sais pas. Avec qui vous voudrez, pourvu que votre femme soit douce au pauvre monde comme vous. Nous étions dans sa rue, presque à sa porte. En passant devant le chantier, elle me montra les fenêtres de la famille Baron, vaguement éclairée par une lampe Carcel, et me dit « Là, je sais une bonne demoiselle. »
« Je la connais aussi, elle s'appelle Caroline. »
« Justement, quand mon père avait la petite Vérole,
elle est venue le soigner ?»« Pour ça, non, c'est trop dangereux. Mais elle ne nous a laissé manquer de rien.
Monsieur Pierre, il faut vous marier avec mademoiselle Caroline. »
« J'y songerai, ma belle. » « Embrasse-moi. Dors bien. »
Ses parents l'attendaient, je la remis entre leurs mains, et je m'enfuis pour éviter les remerciements inutiles. Le lendemain, en allant au bureau, j'appris que ma petite élève était morte dans la nuit. On l'enterra 2 jours après, et au sortir du cimetière, je contai au père Baron ce que la pauvre enfant m'avait dit. Il m'écouta avec une visible émotion, et j'osais lui demander s'il ne croyait pas, comme moi, que les volontés des mourants sont sacrées.
« Oui, oui, » répondit-il, « elles le sont quand elles arrangent tout le monde, et c'est le cas. Ma femme et moi nous sommes très flattés. Caroline sera contente. Il n'y a pas 2 garçons comme vous dans Courcy. Votre position est déjà bonne, et elle ne peut que s'améliorer. Entrez chez nous. Nous tremperons un biscuit dans un verre de vin d'Espagne. » Et si les femmes y sont encore, on pourra se taper dans les mains. La maison, par malheur, était vide. J'y revins le soir avec ma mère, qui, sans enthousiasme et presque sans conviction, mais non sans grâce, exposa ma demande et la fit agréer d'emblée. Il n'y a pas de secret dans les petites villes. On sut donc aussitôt que j'étais fiancée à la fille aînée du marchand de bois. Et l'on apprit à 24 heures d'intervalle qu'il y avait promesse de mariage entre Barbe Bonafigue, sans profession, et Jules Bonnard, sous-chef à la fabrique. Les compliments ne me manquèrent pas. Mon patron me félicita non seulement d'épouser la fille d'un homme riche à 400 000 francs, mais encore et surtout d'avoir sauvé ma peau des griffes de la famille Bonafigue. C'était un vrai coup de fortune, au dire de Monsieur Simoneau, que d'échapper à ces 100 le sou. Braves gens, au fond, mais bohémiens incorrigibles. Le peu d'argent économisé par la mère et la fille s'évaporait au jour le jour entre les mains du père, qui devait avoir un vice secret. Peut-être jouait-il à la bourse. En tout cas, il lui arrivait trop souvent de solliciter des avances, et on ne lui connaissait pas 1 centime d'argent placé. Ce qui pouvait leur arriver de mieux, c'était de marier leur fille à un artiste. Le patron faisait peu de cas des peintres et des graveurs, et regrettait tout haut le bon vieux temps où la fabrique se passait de leur service. il laissait rarement passer l'occasion de mordre sur ses viveurs, qui gagnent 100 francs en un tour de main et les dépensent d'eux-mêmes. Si je lui faisais observer que j'avais décoré avec M. Dousseau les premiers services de la maison Simoneau, et qu'à ce titre je pouvais faire cause commune avec nos artistes industriels, il protestait éloquemment. « Je ne vendrai pas mes dessins au poids de l'or. Je les donnai gratis à la maison, comme c'est le devoir d'un fidèle employé. J'avais de l'ordre, de la conduite, je plaçais mes économies dans la fabrique, et par tous ces mérites transcendants, je méritais d'être l'heureux époux de Caroline Baron. Ainsi soit-il. » Ma mère m'avait accordé son consentement sans joie, mais sans blâme. La vieille maman La France fut un peu moins réservée. « Tu es libre de tes actions, me dit-elle, et tu aurais même le droit de faire une folie. C'est un mariage de raison que tu choisis. L'opinion publique sera pour toi, et tu n'entendras qu'un concert de louanges. Cependant, je ne dois pas te dissimuler que mon pauvre vieux avait d'autres projets sur ta personne. Le père Dumont était un esprit faux. Je le lui répétais tous les jours de sa vie, mais un cœur juste. Il ne se trompait pas en matière de sentiments, et lorsqu'il disait « Nous marierons ce grand garçon à cette petite », m'est avis qu'il ne radotait point. « Je sais de qui tu veux parler, grand-mère, et je vais mettre ta conscience en repos. La petite en question est fiancée à un employé de chez nous, Monsieur Bonnard. S'est-elle fiancée avant ou après toi ? En même temps, pour ainsi dire, à 24 heures d'intervalle, et il y avait plus d'un an qu'elle se laissait faire la cour. D'ailleurs, Monsieur Bonnard est un meilleur parti que moi, ce qui explique tout. Non, je ne la crois pas intéressée, et l'on ne m'ôtera pas de l'esprit qu'elle t'aimait bien. Tu avoueras du moins qu'elle s'est lestement consolée. C'est fait, n'en parlons plus. Et maintenant, qu'est-ce que je t'offrirai ? J'étais en règle avec ma famille et d'accord avec mon patron. Il ne me restait donc plus qu'à me laisser vivre jusqu'au grand jour. Ma seule affaire était d'aimer et d'être heureux. Tous les matins, j'envoyais à ma jolie future le plus beau bouquet des serres de M. André. Tous les soirs, après mon travail, je dînais sur le pouce et je courais chez les barons avec ma mère. Le gros marchand de bois était un bonhomme tout rond. Il parlait haut, riait aux éclats, comptait volontiers ses affaires et frappait un peu trop souvent sur son gousset rempli d'or. Sa femme représentait le type d'une ménagère accomplie, habile aux confitures, très forte sur le prix des denrées, incomparable dans la lessive, excellente maîtresse de maison et tellement maîtresse à la maison que sa fille, la douce enfant, était impatiente d'en sortir. Avec beaucoup de tact et de discrétion, Caroline me laissa entendre, dès notre seconde entrevue, qu'elle voudrait bien être chez elle, avoir une servante à ses ordres et régner seule dans son logis, si étroit et si modeste qu'il fût. Sortir de chez sa mère pour entrer chez la mienne eût été, à ses yeux, un simple changement de prison. Ma pauvre maman, qui avait le génie du sacrifice, comprit la chose à demi-mot et choisit, sans rien dire, au sommet de la ville haute, un petit coin où finir ses jours. Elle nous abandonnait sa maison toute meublée du haut en bas, et Catherine pour nous servir. Elle se dépouillait gaiement, avec entrain, comme les autres s'enrichissent, incessamment occupée à chercher quelles privations elle pourrait encore s'imposer à notre profit. La première semaine d'octobre s'écoula vite au milieu de nos projets, de nos arrangements, des préparatifs du trousseau, des devis de la corbeille. Cependant, je ne trouvais pas dans ces occupations charmantes le plein contentement dont je m'étais leurré. Si la future s'épanouissait à vue d'œil, le fiancé était assez terne. J'avais beau me battre les flancs, une sorte de malaise pesait sur moi. Le travail du bureau m'ennuyait pour la première fois de ma vie. Je m'expliquais ce dégoût par l'absence de ma future et par l'impatience de la revoir. Mais le soir arrivé, lorsque j'entrai dans le salon si net et si correct de Madame Baron, Caroline avait beau venir à moi, me tendre les deux mains, offrir son beau front à mes lèvres, mon abattement persistait, et je restais mélancolique. Du matin au soir, j'avais la tête lourde, sans douleur vive, et le cœur affadi. Le soir, je me couchais avec la fièvre. Fièvre d'amour, si vous voulez, mais fatigante et triste. Mon beau-père, ce vaillant rieur, qui buvait deux bouteilles de vin à son dîner pour chasser l'humeur noire, me dit un jour « Ah ça, j'espère que vous n'avez pas de regrets !» Je protestai avec chaleur, mais il insista. « Mon garçon, c'est une physionomie d'hôpital que vous portez sur vos épaules. Tâchons de changer de visage, ou sinon l'employé de l'état civil est capable de se tromper et d'inscrire vos noces sur le grand livre des décès. Pas de bêtises !» Caroline elle-même, après m'avoir demandé pardon pour la grosse gaieté de son papa, me coula ces deux mots dans l'oreille. « Souffrez-vous ?» Et plusieurs ouvriers de la fabrique, bonnes gens, à qui j'avais pu rendre quelques petits services, me demandaient de but en blanc « Vous n'êtes pas fatigué, monsieur Pierre ?» Je répondais que non, mais sans conviction aucune. Une sorte de conscience physique me disait que j'étais touchée à fond. Le 10 octobre, au matin, je venais de m'éveiller avec un léger mal de gorge, une douleur très supportable dans le cou, un peu de surdité et surtout une forte addition de mélancolie. Lorsque ma porte, battue à coups de poing, laissa entrer le président du club des Badouillards, M. Robiquet, et son vénérable acolyte, le docteur Flan. Ces deux représentants de la folle jeunesse de Courcy venaient me rappeler l'article 17 et dernier de nos statuts. 17. Tout transfuge du club. Idest tout badouillard à ses nigauds pour se laisser entortiller dans les prétendus douliens du mariage, alias Cojungo, devra se racheter en offrant à ses anciens collègues un banquet sterling ou faramineux, à son choix, dans les salons de la couronne, antique et vénérable auberge de Courcy. Je m'excusai de mon ignorance en passant une robe de chambre et je me mis à la disposition de ces messieurs pour le jour qui leur agréerait. L'illustre monsieur Robiquet, qui flairait un bon repas à 10 lieues à la ronde, voulait qu'on mît la fête au lendemain, en vertu de l'axiome « aussitôt pris, aussitôt pendu ». Mais le vieux docteur m'observait sans maudire et surtout sans m'approcher de trop près. Il me posa 5 ou 6 questions sur ma santé et, sans vouloir précisément me mettre la puce à l'oreille, il opina que pour le moment, je ferais mieux de voir un médecin qu'un aubergiste. « Mais, répondis-je, je suis tout servi, puisqu'un vent favorable vous a poussé chez moi. « Peu, fit-il avec modestie, je suis hors d'âge, j'aime à dormir toute ma nuit, et je n'exerce plus qu'en consultation, quand mes jeunes confrères font appel à mon expérience. Prenez Casal, c'est un gentil garçon. N'a-t-il pas fait ses études avec vous ?»« Oui, il était de mes grands anciens au collège. » « Faites-le donc appeler, mon cher ami, si le malaise continue, car vous n'êtes qu'à moitié bien, n'est-ce pas ?»« Tout au plus à moitié. Je ne serai pas surpris d'apprendre demain matin que vous êtes complètement rétabli, mais le luxe de précaution n'a jamais ruiné personne. Voyez Casal, et renvoyons le banquet à Huitaine, afin que vous puissiez y faire honneur. » L'illustre monsieur Robiquet ouvrait timidement la bouche pour protester contre un si long délai. Un coup d'œil furtif du docteur lui imposa silence et me donna beaucoup à penser. Je remarquai que les deux visiteurs se retiraient plus vite que de raison et qu'ils me secouaient la main moins rudement qu'à l'ordinaire. Toutefois, je m'abstins d'appeler le docteur Casal, de peur d'inquiéter ma mère, et je passai devant sa porte sans y sonner, de peur de m'éclairer moi-même. Tous les malades sont des enfants. cette journée me parut bien longue. Mon inquiétude et ma tristesse étaient aggravées par les douleurs du cou et de l'oreille, et j'éprouvais comme un aplatissement moral. Au sortir du bureau, la fraîcheur du soir me donna quelques frissons passagers, suivis d'un peu de fièvre. J'écrivis quelques mots à Caroline pour excuser ma première infidélité, et je me mis au lit. Ma mère, qui commençait à craindre, mais qui n'en disait rien, me donna le bonsoir et rentra ostensiblement dans sa chambre. Elle en sortit à pas de loup dès qu'elle me supposa endormie, et elle passa toute la nuit dans un fauteuil, écoutant ma respiration, observant mes mouvements à la lueur de la veilleuse. Mon sommeil fut agité par des rêves absurdes et lugubres. Ce fut d'abord un grand bal au collège. Tous mes amis du bon vieux temps étaient là, Monsieur Doussot, les Lutzelmann, les Bonafigue, et l'on dansait le cotillon. Tout à coup, Martin Seck sortait de terre au milieu du salon en disant « Je vais vous apprendre une nouvelle figure ». Il tirait un canif de sa poche, se dirigeait en sautillant vers le principal et sa femme, et les piquait l'un après l'autre. Il allait ensuite aux enfants, à Monsieur Doussot, à Basset, piquant toujours, et tous ceux qui l'avaient touché tombaient morts sans répandre une goutte de sang. Personne ne semblait indigné ou étonné. Moi seul, je m'agitais pour arrêter le misérable, mais mon patron me tenait par le bras et j'étais comme cloué sur place. Cependant, Martin Seck se dirigea vers Babe Bonafigue pour la frapper comme les autres. À cette vue, je bondis, je renverse tout, j'enlève ma jeune amie et, passant à travers les murs, je l'emporte hors du collège. Me voici dans la rue de Navarre, haletant, effaré, mais soutenu par une idée fixe. Déposer mon fardeau entre les mains du docteur Casal. Seulement, ce n'est plus Barbe que je tiens, c'est ma petite élève de la fabrique. Elle se suspend à mon cou avec une vigueur qui m'étrangle, en même temps que sa bouche murmure les plus tendres remerciements à mon oreille. Nous allons, nous courons toujours, sans atteindre la maison du médecin, qui semble reculer devant nous. Mais je ne sens pas la fatigue. Au contraire, on dirait qu'à chaque enjambée, mon fait devient moins lourd. Étonné, je regarde à la lumière du premier bec de gaz et je vois la petite figure horriblement maigrie. Un peu plus loin, elle m'apparaît décharnée. Et puis, je ne porte plus qu'un squelette dont les os s'entrechoquent bruyamment comme des noix secouées dans un sac. Enfin, j'arrive au domicile de Monsieur Casal. Le jeune médecin est debout sur le seuil de sa porte et me dit « Je vous attendais. Ce vieil égoïste de flanc m'avait annoncé votre visite. Ah, voici la malade. Elle a mauvaise mine, mais cela ne sera rien. Tant que le squelette est complet, regardez, ça tient debout, comme une pièce de musée. En ai-je vu de ces personnages macabres chez les naturalistes du quartier latin? On les guérit 9 fois sur 10. Restons ici, ce n'est pas la peine d'entrer. J'ai 20 clients dans mon antichambre. Nous allons procéder par la méthode plastique. On assure que Phidias commençait par établir la charpente osseuse de ses statues et qu'il posait les muscles par-dessus. Je n'en crois rien. Mais ce qui est absurde dans un art peut être sublime dans un autre. Tout en parlant, il prenait ma chair à pleine main, l'arrachait sans effort et la jetait par grosses poignées sur le crâne, les côtes et les membres du squelette. Il l'étalait avec la paume et la modelait à coups de pouce, sans se presser, riant d'un air malin et me disant de temps à autre « Celle-ci, mon bien bon, sera vraiment la chair de votre chair. Que vous semble de cette tête ?» Je la trouvais jolie, mais il l'avait encore changée. Ce n'était plus ma petite apprentie, la malade du 1er octobre. C'était Barbe elle-même, et florissante de santé. « Attendez !» cria le docteur. « Le cou est encore un peu maigre. Je veux lui faire le collier de Vénus. Encore un peu de cette bonne argile humaine. » Il porta la main à ma gorge et y enfonça les 5 doigts avec tant de vigueur que je m'éveillai en criant. Monsieur Casal, Monsieur Casal !»«
Présent ?» répondit le docteur, qui venait d'entrer dans la chambre. Ma mère, épouvantée par les agitations de cette nuit, avait pris sur elle de l'envoyer chercher. Ce jeune savant, héroïque, comme ils le sont presque tous, assista d'un œil calme et souriant à mon pénible réveil. L'angine m'étouffait. J'avais la gorge sèche, la peau brûlante, et je criais la soif. La fièvre me clouait si bien sur l'oreiller que je ne songeais pas même à sortir du lit. Tout le jour et la nuit entière, je vécus de la vie étrange des hallucinés, débitant mille extravagances à ma mère et à Catherine, qui se multipliaient autour de moi dans leurs ailes effarées. Le lendemain, 12 octobre, je saignais du nez sans m'en apercevoir, et mes mains rougies tachaient de leurs gestes inconscients les draps du lit, le tablier de Catherine, les manchettes du docteur, tout ce qui se trouvait à leur portée. La gorge était toujours serrée, mais le délire plus calme. Je divaguais comme on raisonne en état de santé, froidement, d'un air convaincu. Les 3 journées suivantes ne furent qu'un long accès de folie. Enflammée par la fièvre, je voulais courir au bureau. J'entendais le patron qui m'appelait à la fenêtre pour arrêter les comptes de Castenède, de Souk et de la veuve de Brucard. C'était aussi mon cousin Charles qui venait me chercher de la part de Monsieur Bonafigue. Un bruit de cloche rassemblait toutes les nations du monde autour de notre petit arbre de la liberté, et mon père leur parlait éloquemment de la paix sans nuages et de l'harmonie universelle. Mais tout à coup, sans transition, les peuples se ruaient les uns sur les autres. J'entendais distinctement le tambour, et je voyais Papa la France, le sabre en main, dans son vieil uniforme, à la tête d'un bataillon républicain. N'est pas bon malade qui veut. J'avais pris en horreur la pauvre Catherine. Je refusais ses soins, le timbre de sa voix m'agaçait, je lui reprochais de sentir la cuisine, quoique le feu de ses fourneaux fût éteint depuis plusieurs jours. Ma mère seule avait le don de me calmer un peu lorsqu'elle me tenait la main ou qu'elle soufflait sur mon front. J'abusais de son dévouement et j'épuisais ses forces jusqu'au jour où je m'aperçus qu'elle était accablée, qu'elle respirait avec peine et que son cou et sa mâchoire inférieure, également enflées, ne faisaient qu'un. Alors je la chassai de ma chambre, je voulus qu'elle se mît au lit. Elle ne s'y mit pas spontanément, car elle était déjà trop faible, mais elle s'y laissa porter par Catherine et le docteur Casal. À partir de ce jour, 18 octobre, jusqu'au 6 du mois suivant, je ne reconnus personne, et je vécus, si c'était vivre, aussi inconscient qu'une plante de serre chaude, sans idée, sans volonté, sans désir, étranger aux amis dévoués qui prenaient soin de moi, et ne songeant pas même à demander ma mère. Je ne me rappelle rien de cette agonie, sinon ce qu'on m'en a conté plus tard. Il paraît que pendant 8 jours, on me fit boire goutte à goutte, on me lava la bouche et le gosier avec du jus de citron, et que ces soins minutieux entretinrent en moi comme un reste de vie. Le 26, j'étais si faible que je ne délirais presque plus. Mais il fallait chercher mon misérable pouls, et le peu qui restait de moi était plongé dans une somnolence continuelle. Le 29, l'agitation me reprit. Je toussais, j'expulsais quelques fausses membranes, je bus avidement, et je dormis d'un sommeil si profond que Catherine appela par ses cris ma seconde garde-malade, une autre femme que je ne connaissais pas, mais qui me soignait bien aussi. « Il est mort, mademoiselle, il est mort !» Enfin, le 6 novembre, je m'éveillai avec la soif et la faim, mais la soif et la faim d'une bête. Je reconnus le docteur Casal, je reconnus ma vieille servante, je reconnus la petite barbe Bonafigue. Sa présence ne m'étonna nullement, pas plus que l'absence de ma mère. L'admirable enfant me baisa sur les yeux et me dit « Te souviens-tu qu'à l'enterrement de ton père,
nous t'avons déclaré, Jean et moi, que nous serions heureux de t'offrir notre vie ?»
Je répondis comme une brute. « Alors, donne-moi du bouillon. » Cela lui sembla tout simple. Elle me fit boire et manger.
J'eus alors 4 jours de fausse convalescence, pendant lesquels, enivré de ma propre faiblesse, je fus tout au plaisir de revivre, et dans mon égoïsme idiot, j'oubliai tout ce qui n'était pas moi. Mais le 10 au matin, en mangeant un œuf à la coque, je rencontrai une mouillette qui refusa obstinément de passer. Je voulus prendre un peu d'eau rougie et je rejetai la boisson par le nez. Une mortelle angoisse m'avertit que je n'étais pas quitte envers la maladie et qu'il fallait me préparer à un nouvel assaut. Ce fut d'abord un douloureux fourmillement dans les jambes et dans le bras droit, puis une paralysie presque complète. Je n'avais plus à moi que ma tête et mes yeux, et je n'en jouis pas longtemps, car au bout de 5 ou 6 jours, ma vue se troubla, mes yeux se fermèrent. Je me sentis aveugle et paralysé pour la vie. À cette idée, le désespoir me prit. La fièvre se ralima, l'agitation et le délire recommencèrent. Je traversai une de ces crises violentes dont l'homme ne peut sortir que mort ou promptement guéri. J'en sortis à mon avantage, très faible, mais affranchi de toutes les infirmités passagères qui s'étaient abattues sur moi. Le 20 novembre, M. Casal dit « Il est sauvé, mademoiselle, et l'honneur vous en revient plutôt qu'à moi. » 3 jours après, Catherine m'emportait au salon dans une couverture. On aérait ma chambre et l'on faisait mon lit. Mollement étendu sur un grand canapé, devant un feu flambant, je songeais pour la première fois à demander ma mère. Barbe ne savait que répondre. Catherine dissimulait de son mieux sa robe noire et son bonnet de deuil. Mais le docteur, comprenant dans sa jeune sagesse que j'avais l'esprit assez faible et la sensibilité assez émoussée pour recevoir un grand coup sans mourir, me raconta comment la pauvre femme avait succombé à son mal, au mien, pour mieux dire, après 2 jours de souffrance. Il avait bien raison de compter sur l'abominable égoïsme des convalescents, car le premier cri de mon cœur fut celui-ci. « Oh, ma mère qui m'aimait tant! A-t-elle pu mourir quand j'étais si malade ?» Je ne me pardonnerai jamais ce mouvement stupide et féroce. Chère femme, douce martyre, si je n'avais devant moi toute une vie pour te bénir et te pleurer.